Sans ces explications qui peignent tout un côté de l'histoire de la vie provinciale sous l'Empire et la Restauration, il eût été difficile de comprendre la scène par laquelle commence cette aventure et qui eut lieu vers la fin du mois d'octobre de l'année 1822, dans le cabinet des Antiques, un soir, après le jeu, quand les nobles habitués, les vieilles comtesses, les jeunes marquises, les simples baronnes eurent soldé leurs comptes. Le vieux gentilhomme se promenait de long en long dans le salon, où Mademoiselle d'Esgrignon allait éteignant elle-même les bougies aux tables de jeu. Il ne se promenait pas seul, il était avec le chevalier. Ces deux débris du siècle précédent causaient de Victurnien. Le chevalier avait été chargé de faire à son sujet des ouvertures au marquis. « Oui, marquis, disait le chevalier, votre fils perd ici son temps et sa jeunesse, vous devez enfin l'envoyer à la cour. » « J'ai toujours songé que, si mon grand âge m'interdisait d'aller à la cour, ou, entre nous soit dit, je ne sais pas ce que je ferais, en voyant ce qui se passe et au milieu des gens nouveaux que reçoit le roi, j'enverrais du moins mon fils présenter nos hommages à sa majesté. Le roi doit donner quelque chose au comte, quelque chose comme un régiment, un emploi dans sa maison, enfin, le mettre à même de gagner ses éperons. Mon oncle, l'archevêque, a souffert un cruel martyr. » J'ai guerroyé sans déserter le camp, comme ceux qui ont cru de leur devoir de suivre les princes. Selon moi, le roi était en France, sa noblesse devait l'entourer. Eh bien, personne ne songe à nous, tandis que Henri IV aurait écrit déjà aux d'Esgrignon « Venez mes amis, nous avons gagné la partie ». Enfin, nous sommes quelque chose de mieux que les Tréville, et voici deux Tréville nommés pairs de France. Un autre est député de la noblesse, il prenait les grands collèges électoraux pour les assemblées de son ordre. Vraiment, on ne pense pas plus à nous que si nous n'existions pas. J'attendais le voyage que les princes devaient faire par ici, mais les princes ne viennent pas à nous, il faut donc aller à eux. Je suis enchantée de savoir que vous pensez à produire notre cher Victurnien dans le monde, dit habilement le chevalier. Cette ville est un trou dans lequel il ne doit pas enterrer ses talents. Tout ce qu'il peut y rencontrer, c'est quelque normande ben sotte, ben mal apprise et riche. Qu'est-ce qu'il en ferait? Sa femme? Ah, bon Dieu! J'espère bien qu'il ne se mariera qu'après être parvenu à quelque belle charge du royaume ou de la couronne, dit le vieux marquis. Mais il y a des difficultés graves. Voici les seules difficultés que le marquis apercevait à l'entrée de la carrière pour son fils. Mon fils, reprit-il après une pause marquée par un soupir, le comte d'Esgrignon ne peut pas se présenter comme un va-nu-pied, il faut l'équiper. Hélas, nous n'avons plus, comme il y a deux siècles, nos gentils hommes de suite. Ah, chevalier, cette démolition de fond en comble, elle me trouve toujours au lendemain du premier coup de marteau donné par Monsieur de Mirabeau. Aujourd'hui, il ne s'agit plus que d'avoir de l'argent, c'est tout ce que je vois de clair dans les bienfaits de la Restauration. Le roi ne vous demande pas si vous descendez des Valois ou si vous êtes un des conquérants de la Gaule, il vous demande si vous payez 1000 francs de taille. Je ne saurais donc envoyer le comte à la cour sans quelque 20 000 écus. « Oui, avec cette bagatelle, il pourra se montrer galamment, » dit le chevalier. « Eh bien, » dit Mademoiselle Armande, « j'ai prié Chesnel de venir ce soir. Croiriez-vous, chevalier, que depuis le jour où Chesnel m'a proposé d'épouser ce misérable du croisier... »« Ah, oh, c'était bien indigne, mademoiselle, » s'écria le chevalier. « Impardonnable, » dit le marquis. « Eh bien, » reprit Mademoiselle Armande, « mon frère n'a jamais pu se décider à demander quoi que ce soit à Chesnel. »« À votre ancien domestique ?» reprit le chevalier. « Ah, marquis, mais vous feriez à Chesnel un honneur dont il serait reconnaissant jusqu'à son dernier soupir. »« Non, répondit le gentilhomme, je ne trouve pas la chose digne. »« Il s'agit bien de digne, la chose est nécessaire, » reprit le chevalier en faisant un léger haut-le-corps. « Jamais !» s'écria le marquis, en ripostant par un geste qui décida le chevalier à risquer un grand coup pour éclairer le vieillard. « Eh bien, dit le chevalier, si vous ne le savez pas, je vous dirai, moi, que Chesnel a déjà donné quelque chose à votre fils. Quelque chose comme « Mon fils est incapable d'avoir accepté quoi que ce soit de Chesnel !» s'écria le vieillard en se redressant et interrompant le chevalier. « Il a pu vous demander, à vous, 25 louis !»« Quelque chose comme 100 000 livres !» dit le chevalier en continuant. « Le comte d'Esgrignon doit 100 000 livres à un Chesnel !» s'écria le vieillard en donnant les signes d'une profonde douleur. « Ah, oh, s'il n'était pas fils unique, il partirait ce soir pour les îles avec un brevet de capitaine. Devoir à des usuriers avec lesquels on s'acquitte par de gros intérêts, bon, mais Chesnel, un homme auquel on s'attache. Oui, notre adorable Victurnien a mangé 100 000 livres, mon cher marquis, reprit le chevalier en secouant les grains de tabac tombés sur son gilet. C'est peu, je le sais, à son âge, moi. Enfin, laissons-nous souvenir, marquis. Le comte est en province, toute proportion gardée, ce n'est pas mal. Il ira loin, je lui vois les dérangements des hommes qui plus tard accomplissent de grandes choses. Et il dort là-haut sans avoir rien dit à son père, s'écria le marquis. Il dort avec l'innocence d'un enfant qui n'a encore fait le malheur que de 5 à 6 petites bourgeoises et auxquelles il faut maintenant des duchesses, répondit le chevalier. Mais il appelle sur lui la lettre de cachet. Ils ont supprimé les lettres de cachet, dit le chevalier. Quand on a essayé de créer une justice exceptionnelle, vous savez comme on a crié. Nous n'avons pu maintenir les cours prévôtales que M. de Buonaparte appelait commission militaire. Eh bien, qu'allons-nous devenir quand nous aurons des enfants fous ou trop mauvais sujets? Nous ne pourrons donc plus les enfermer, dit le marquis. Le chevalier regarda le père au désespoir et n'osa lui répondre. Nous serons forcés de les bien élever. « Et vous ne m'avez rien dit de cela, mademoiselle d'Esgrignon ?» reprit le marquis en interpellant sa sœur. Ces paroles dénotaient toujours une irritation. Il l'appelait ordinairement « ma sœur ». « Mais, monsieur, quand un jeune homme vif et bouillant reste oisif dans une ville comme celle-ci, que voulez-vous qu'il fasse ?» dit mademoiselle d'Esgrignon, qui ne comprenait pas la colère de son frère. « Eh, diantre, des dettes !» reprit le chevalier. « Il joue, il a de petites aventures, il chasse. Tout cela coûte horriblement aujourd'hui. » « Allons, reprit le marquis, il est temps de l'envoyer au roi. Je passerai la matinée demain à écrire à nos parents. » « Je connais quelque peu les ducs de Navarreins, de Lenoncourt, de Maufrigneuse, de Chaulieu, » dit le chevalier, qui se savait cependant bien oublié. « Mon cher chevalier, il n'est pas besoin de tant de façons pour présenter un d'Esgrignon à la cour, » dit le marquis en l'interrompant. « 100 000 livres, » se dit-il, « ce Chesnel est bien hardi. Voilà les effets de ces maudits troubles. » « Mon Chesnel protégeait mon fils, et il faut que je lui demande. »« Non, ma sœur, vous ferez cette affaire. Chesnel prendra ses sûretés sur nos biens pour le tout. Puis lavez la tête à ce jeune étourdi, car il finirait par se ruiner. » Le chevalier et mademoiselle d'Esgrignon trouvaient simples et naturelles ces paroles, si comiques pour tout autre qui les aurait entendues. Loin de là, ces deux personnages furent très émus de l'expression presque douloureuse qui se peignit sur les traits du vieillard. En ce moment, M. d'Esgrignon était sous le poids de quelques prévisions sinistres. Il devinait presque son époque. Il alla s'asseoir sur une bergère, au coin du feu, oubliant Chesnel qui devait venir et auquel il ne voulait rien demander. Le marquis d'Esgrignon avait alors la physionomie que les imaginations un peu poétiques lui voudraient. Sa tête presque chauve avait encore des cheveux blancs soyeux, placés à l'arrière de la tête et retombant par mèches plates mais bouclées aux extrémités. Son beau front plein de noblesse, ce front que l'on admire dans la tête de Louis XV, dans celle de Beaumarchais et dans celle du maréchal de Richelieu, n'offrait au regard ni l'ampleur carrée du maréchal de Saxe, ni le cercle petit, dur, serré, trop plein de Voltaire, mais une gracieuse forme convexe, finement modelée, à tempes molles et dorées. Ses yeux brillants jetaient ce courage et ce feu que l'âge n'abat point. Il avait le nez des Condés, l'aimable bouche des Bourbons, de laquelle il ne sort que des paroles spirituelles ou bonnes, comme en disait toujours le comte d'Artois. Ses joues, plus en talus que niaisement rondes, étaient en harmonie avec son corps sec, ses jambes fines et sa main potelée. Il avait le cou serré par une cravate, mise comme celle des marquis représentée dans toutes les gravures qui ornent les ouvrages du dernier siècle, et que vous voyez à Saint-Preux comme à Lovelace, aux héros du bourgeois Diderot comme à ceux de l'élégant Montesquieu, voir les premières éditions de leurs œuvres. Le marquis portait toujours un grand gilet blanc brodé d'or, sur lequel brillait le ruban de commandeur de Saint-Louis, un habit bleu à grandes basques, à pans retroussés et fleurs-de-lysée, singulier costume qu'avait adopté le roi, mais le marquis n'avait point abandonné la culotte française, ni les bas de soie blancs, ni les boucles. Dès 6 heures du soir, il se montrait dans sa tenue. Il ne lisait que la Quotidienne et la Gazette de France, deux journaux que les feuilles constitutionnelles accusaient d'obscurantisme, de 1000 énormités monarchiques et religieuses, et que le marquis, lui, trouvait pleines d'hérésies et d'idées révolutionnaires. Quelque exagérés que soient les organes d'une opinion, ils sont toujours au-dessous des purs de leur parti. De même que le peintre de ce magnifique personnage sera certes taxé d'avoir outrepassé le vrai, tandis qu'il adoucit quelques tons trop crus, et qu'il éteint des parties trop ardentes chez son modèle. Le marquis d'Esgrignon avait mis ses coudes sur ses genoux et se tenait la tête dans les mains. Pendant tout le temps qu'il médita, Mademoiselle Armande et le chevalier se regardèrent sans se communiquer leurs idées. Le marquis souffrait-il de devoir l'avenir de son fils à son ancien intendant? Doutait-il de l'accueil qu'on ferait au jeune comte? Regrettait-il de n'avoir rien préparé pour l'entrée de son héritier dans le monde brillant de la cour, en demeurant au fond de sa province où l'avait retenu sa pauvreté? Car comment aurait-il paru à la cour? Il soupira fortement en relevant la tête. Ce soupir était un de ceux que rendait alors la véritable et loyale aristocratie, celle des gentilshommes de province, alors si négligés, comme la plupart de ceux qui avaient saisi leur épée et résisté pendant l'orage. Qu'a-t-on fait pour les Montauran, pour les Ferdinand qui sont morts ou ne se sont jamais soumis? Se dit-il à voix basse. À ceux qui ont lutté le plus courageusement, on a jeté de misérables pensions, quelques lieutenances de roi dans une forteresse, à la frontière. Évidemment, il doutait de la royauté. Mademoiselle d'Esgrignon essayait de rassurer son frère sur l'avenir de ce voyage, quand on entendit sur le petit pavé sec de la rue, le long des fenêtres du salon, un pas qui annonçait Chesnel. Le notaire se montra bientôt à la porte que Joséphin, le vieux valet de chambre du comte, ouvrit sans annoncer. « Chesnel, mon garçon !» Le notaire avait 69 ans, une tête chenue, un visage carré, vénérable, des culottes d'une ampleur qui eussent mérité de Sterne une description épique, des bras drapés, des souliers à agrafes d'argent, un habit en façon de chasuble et un grand gilet de tuteur. « Tu as été bien outrecuidant de prêter de l'argent au comte d'Esgrignon. Tu mériterais que je te le rendisse à l'instant et que nous ne te vissions jamais, car Dieu a donné des ailes à ses vices. » Il y eut un moment de silence, comme à la cour, quand le roi réprimande publiquement un courtisan. Le vieux notaire avait une attitude humble et contrite. « Chesnel, cet enfant m'inquiète, » reprit le marquis avec bonté. « Je veux l'envoyer à Paris pour y servir le roi. Tu t'entendras avec ma sœur pour qu'il y paraisse convenablement. Nous réglerons nos comptes. » Le marquis se retira gravement en saluant Chesnel par un geste familier. « Je remercie monsieur le marquis de ses bontés, » dit le vieillard qui restait debout. Mademoiselle Armande se leva pour accompagner son frère. Elle avait sonné, le valet de chambre était à la porte, un flambeau à la main, pour aller coucher son maître. « Asseyez-vous, Chesnel, » dit la vieille fille en revenant. Par ses délicatesses de femme, Mademoiselle Armande ôtait toute rudesse au commerce du marquis avec son ancien intendant. Quoique sous cette rudesse, Chesnel devinât une affection magnifique. L'attachement du marquis pour son ancien domestique constituait une passion semblable à celle que le maître a pour son chien et qui le porterait à se battre avec qui donnerait un coup de pied à sa bête. Il la regarde comme une partie intégrante de son existence, comme une chose qui, sans être tout à fait à lui, le représente dans ce qu'il a de plus cher, les sentiments. « Il était temps de faire quitter cette ville à monsieur le comte, mademoiselle, » dit sentencieusement le notaire. « Oui, » répondit-elle. « S'est-il permis quelque nouvelle escapade ?»« Non, mademoiselle. »« Eh bien, pourquoi l'accusez-vous »« Mademoiselle, je ne l'accuse pas. »« Non, je ne l'accuse pas. »« Je suis bien loin de l'accuser. »« Je ne l'accuserai même jamais, quoi qu'il fasse. » La conversation tomba. Le chevalier, être éminemment compréhensif, se mit à bâiller comme un homme talonné par le sommeil. Il s'excusa gracieusement de quitter le salon et sortit, ayant envie de dormir autant que de s'aller noyer. Le démon de la curiosité lui écarquillait les yeux et de sa main délicate ôtait le coton que le chevalier avait dans les oreilles. « Eh bien, Chesnel, y a-t-il quelque chose de nouveau ?» dit Mademoiselle Armande inquiète. « Oui, reprit Chesnel, il s'agit de ces choses dont il est impossible de parler à monsieur le marquis. Il tomberait foudroyé par une apoplexie. « Dites donc, » reprit-elle, en penchant sa belle tête sur le dos de sa bergère et laissant aller ses bras le long de sa taille, comme une personne qui attend le coup de la mort sans se défendre. « Mademoiselle, monsieur le comte qui a tant d'esprit est le jouet de petites gens en train d'épier une grande vengeance. Il nous voudrait ruiner, humilier. Le président du tribunal, le sieur du Ronceret, a, comme vous savez, les plus hautes prétentions nobiliaires. « Son grand-père était procureur, » dit Mademoiselle Armande. « Je le sais, » dit le notaire. « Aussi ne l'avez-vous pas reçu chez vous. Il ne va pas non plus chez messieurs de Tréville, ni chez le duc de Gordon, ni chez le marquis de Catéran, mais il est un des piliers du salon du croisier. Monsieur Félicien du Ronceret, avec qui votre neveu peut frayer sans trop se compromettre. Il lui faut des compagnons. Eh bien, ce jeune homme est le conseiller de toutes ces folies, lui et deux ou trois autres qui sont du parti de votre ennemi, de l'ennemi de monsieur le chevalier, de celui qui ne respire que vengeance contre vous et contre toute la noblesse. Tous espèrent vous ruiner par votre neveu, le voir tomber dans la boue. Cette conspiration est menée par ce sycophante du croisier qui fait le royaliste. Sa pauvre femme ignore tout. Vous la connaissez, je l'aurais su plus tôt si elle avait des oreilles pour entendre le mal. Pendant quelque temps, ces jeunes fous n'étaient pas dans le secret, ils n'y mettaient personne. Mais à force de rire, les meneurs se sont compromis, les niais ont compris, et depuis les dernières escapades du comte, ils se sont échappés à dire quelques mots quand ils étaient ivres. Ces mots m'ont été rapportés par des personnes chagrines de voir un si beau, un si noble et si charmant jeune homme se perdant à plaisir. Dans ce moment, on le plaint. Dans quelques jours, il sera... Je n'ose... Méprisé, dites, Chesnel, s'écria douloureusement mademoiselle Armande. Hélas, comment voulez-vous empêcher les meilleurs gens de la ville, qui ne savent que faire du matin jusqu'au soir, de contrôler les actions de leurs prochains? Ainsi les pertes de monsieur le comte au jeu ont été calculées. Voilà, depuis 2 mois, 30 000 francs d'envolée, et chacun se demande où il les prend. Quand on parle devant moi, je vous les rappelle à l'ordre. Ah, mais croyez-vous, leur disais-je ce matin, si l'on a pris les droits utiles et les terres de la maison d'Esgrignon, qu'on ait mis la main sur les trésors. Le jeune comte a le droit de se conduire à sa guise, et tant qu'il ne vous devra pas un sou, vous n'avez pas à dire un mot. » Mademoiselle Armande tendit sa main sur laquelle le vieux notaire mit un respectueux baiser. « Bon Chesnel, mon ami, comment nous trouverez-vous des fonds pour ce voyage? Victurnien ne peut aller à la cour sans s'y tenir à son rang. Oh, mademoiselle, j'ai emprunté sur le jar. Comment ? « Vous n'aviez plus rien ? Mon Dieu » s'écria-t-elle, « comment ferons-nous pour vous récompenser ?»« En acceptant les 100 000 francs que je tiens à votre disposition, vous comprenez que l'emprunt a été secrètement mené pour ne pas vous déconsidérer. Aux yeux de la ville, j'appartiens à la maison d'Esgrignon. » Quelques larmes vinrent aux yeux de mademoiselle Armande. Chesnel, les voyant, prit un pli de la robe de cette noble fille et le baisa. « Ce ne sera rien, reprit-il. Il faut que les jeunes gens jettent leur gourme. Le commerce des beaux salons de Paris changera le cours des idées du jeune homme. Et ici, vraiment, vos vieux amis sont les plus nobles cœurs, les plus dignes personnes du monde. Mais ils ne sont pas amusants. Monsieur le comte, pour se désennuyer, est obligé de descendre, et il finirait par s'encanailler. » Le lendemain, la vieille voiture de voyage de la maison d'Esgrignon vit le jour et fut envoyée chez le sellier pour être mise en état. Le jeune comte fut solennellement averti par son père, après le déjeuner, des intentions formées à son égard. Il irait à la cour, demander du service au roi. En voyageant, il devait se déterminer pour une carrière quelconque. La marine ou l'armée de terre, les ministères ou les ambassades, la maison du roi. Il n'avait qu'à choisir, tout lui serait ouvert. Le roi saurait sans doute gré au d'Esgrignon de ne lui avoir rien demandé, d'avoir réservé les faveurs du trône pour l'héritier de la maison. Depuis ses folies, le jeune d'Esgrignon avait flairé le monde parisien et jugé la vie réelle. Comme il s'agissait pour lui de quitter la province et la maison paternelle, il écouta gravement la locution de son respectable père, sans lui répondre que l'on n'entrait ni dans la marine ni dans l'armée comme jadis, et que pour devenir sous-lieutenant de cavalerie, sans passer par les écoles spéciales, il fallait servir dans les pages, que les fils des familles les plus illustres allaient à Saint-Cyr et à l'école polytechnique, ni plus ni moins que les fils de roturiers, après des concours publics où les gentilshommes couraient la chance d'avoir le dessous avec les vilains. En éclairant son père, il pouvait ne pas avoir les fonds nécessaires pour un séjour à Paris. Il laissa donc croire au marquis et à sa tante Armande qu'il aurait à monter dans les carrosses du roi, à paraître au rang que s'attribuaient les d'Esgrignon aux temps actuels, et à frayer avec les plus grands seigneurs. Marri de ne donner à son fils qu'un domestique pour l'accompagner, le marquis lui offrit son vieux valet Joséphin, un homme de confiance qui aurait soin de lui, qui veillerait fidèlement à ses affaires et de qui le pauvre père se défaisait, espérant le remplacer auprès de lui par un jeune domestique. « Souvenez-vous, mon fils, lui dit-il, que vous êtes un Carole, que votre sang est un sang pur de toutes mes alliances, que votre écusson a pour devise « il est nôtre », qu'il vous permet d'aller partout la tête haute et de prétendre à des reines. Rendez grâce à votre père comme moi je fis au mien. » Nous devons à l'honneur de nos ancêtres, saintement conservés, de pouvoir regarder tout en face et de n'avoir à plier le genou que devant une maîtresse, devant le roi et devant Dieu. Voilà le plus grand de vos privilèges. » Le bon Chesnel avait assisté au déjeuner. Il ne s'était pas mêlé des recommandations héraldiques ni des lettres aux puissances du jour, mais il avait passé la nuit à écrire à l'un de ses vieux amis, un des plus anciens notaires de Paris. La paternité factice et réelle que Chesnel portait à Victurnien serait incomprise si l'on omettait de donner cette lettre, comparable peut-être au discours de Dédale à Icare. Ne faut-il pas remonter jusqu'à la mythologie pour trouver des comparaisons dignes de cet homme antique ? Mon cher et respectable Sorbier, je me souviens avec délice d'avoir fait mes premières armes dans notre honorable carrière chez ton père, où tu m'as aimé, pauvre petit clerc que j'étais. C'est à ces souvenirs de cléricature, si doux à nos cœurs, que je m'adresse pour réclamer de toi le seul service que je t'aurais demandé. Dans le cours de notre longue vie, traversée par ces catastrophes politiques auxquelles j'ai dû peut-être l'honneur de devenir ton collègue. Ce service, je te le demande, mon ami, sur le bord de la tombe, au nom de mes cheveux blancs, qui tomberaient de douleur si tu n'obtempérais à mes prières. Sorbier, il ne s'agit ni de moi ni des miens. J'ai perdu la pauvre Madame Chesnel et n'ai pas d'enfant. Hélas, il s'agit de plus que ma famille, si j'en avais une. Il s'agit du fils unique de Monsieur le Marquis d'Esgrignon, de qui j'ai eu l'honneur d'être l'intendant au sortir de l'étude, où son père m'avait envoyé, à ses frais, dans l'intention de me faire faire fortune. Cette maison, où j'ai été nourri, a subi tous les malheurs de la Révolution. J'ai pu lui sauver quelques biens, mais qu'est-ce, en comparaison de l'opulence éteinte ? Sorbier, je ne saurais t'exprimer à quel point je suis attaché à cette grande maison que j'ai vue près de Choire dans l'abîme des temps. La proscription, la confiscation, la vieillesse et point d'enfant. Combien de malheurs ! Monsieur le marquis s'est marié, sa femme est morte en couche du jeune comte, il ne reste aujourd'hui de bien vivant que ce noble, cher et précieux enfant. Les destinées de cette maison résident en ce jeune homme. Il a fait quelques dettes en s'amusant ici. Que devenir en province avec 100 misérables louis ? Oui, mon ami, 100 louis, voilà où en est la grande maison d'Esgrignon. Dans cette extrémité, son père a senti la nécessité de l'envoyer à Paris et réclamer à la cour la faveur du roi. Paris est un lieu bien dangereux pour la jeunesse. Il faut la dose de raison qui nous fait notaire pour y vivre sagement. Je serais d'ailleurs au désespoir de savoir ce pauvre enfant vivant des privations que nous avons connues. Te souviens-tu du plaisir avec lequel tu as partagé mon petit pain au parterre du Théâtre Français quand nous y sommes restés un jour et une nuit pour voir la représentation du mariage de Figaro ? Aveugles que nous étions ! Nous étions heureux et pauvres, mais un noble ne saurait être heureux dans l'indigence. L'indigence d'un noble est une chose contre nature. Ah, Sorbier, quand on a eu le bonheur d'avoir de sa main arrêté dans sa chute l'un des plus beaux arbres généalogiques du royaume, il est si naturel de s'y attacher, de l'aimer, de l'arroser, de vouloir le voir refleuri, que tu ne t'étonneras point des précautions que je prends et de m'entendre réclamer le concours de tes lumières pour faire arriver à bien notre jeune homme. La maison d'Esgrignon a destiné la somme de 100 000 francs aux frais du voyage entrepris par monsieur le comte. Tu le verras, il n'y a pas à Paris de jeune homme qui puisse lui être comparé. Tu t'intéresseras à lui comme à un fils unique. Enfin, je suis certain que Madame Sorbier n'hésitera pas à te seconder dans la tutelle morale dont je t'investis. La pension de monsieur le comte Victurnien est fixée à 2 000 francs par mois, mais tu commenceras par lui en remettre 10 000 pour ses premiers frais. Ainsi la famille a pourvu à 2 ans de séjour, hors le cas d'un voyage à l'étranger, pour lequel nous verrions alors à prendre d'autres mesures. Associe-toi, mon vieil ami, à cette œuvre, et tiens les cordons de la bourse un peu serrés. Sans admonester, monsieur le comte, soumets-lui des considérations, retiens-le autant que tu pourras, et fais en sorte qu'il n'anticipe point d'un mois sur l'autre, sans de valables raisons, car il ne faudrait pas le désespérer dans une circonstance où l'honneur serait engagé. Informe-toi de ses démarches, de ce qu'il fait, des gens qu'il fréquentera, surveille ses liaisons. Monsieur le chevalier m'a dit qu'une danseuse de l'opéra coûtait souvent moins cher qu'une femme de la cour. Prends des informations sur ce point et retourne-moi ta réponse. Madame Sorbier pourrait, si tu es trop occupée, savoir ce que deviendra le jeune homme, où il ira. Peut-être l'idée de se faire l'ange gardien d'un enfant si charmant et si noble lui sourira-t-elle ? Dieu lui saurait gré d'avoir accepté cette sainte mission. Son cœur tressaillera peut-être en apprenant combien monsieur le comte Victurnien court de danger dans Paris. Vous le verrez, il est aussi beau que jeune, aussi spirituel que confiant. S'il se liait à quelque mauvaise femme, madame Sorbier pourrait mieux que toi l'avertir de tous les dangers qu'il courrait. Il est accompagné d'un vieux domestique qui pourra te dire bien des choses. Sonde Joséphin, à qui j'ai dit de te consulter dans les conjonctures délicates. Mais pourquoi t'en dirais-je davantage? Nous avons été clairs et malins. Rappelle-toi nos escapades et aie pour cette affaire quelques retours de jeunesse, mon vieil ami. Les 60 000 francs te seront remis en un bon sur le trésor par un monsieur de notre ville qui se rend à Paris, etc. Si le vieux couple eût suivi les instructions de Chesnel, il eût été obligé de payer 3 espions pour surveiller le comte d'Esgrignon. Cependant, il y avait dans le choix du dépositaire une ample sagesse. Un banquier donne des fonds, tant qu'il en a dans sa caisse, à celui qui se trouve crédité chez lui. Tandis qu'à chaque besoin d'argent, le jeune homme serait obligé d'aller faire une visite au notaire, qui certes userait du droit de remontrance. Victurnien pense à trahir sa joie en apprenant qu'il aurait 2 000 francs par mois. Il ne savait rien de Paris. Avec cette somme, il croyait pouvoir y mener un train de prince.